France Inter.
Présidente du Centre National du Livre, fer de lance de la défense de la lecture, Régine Atchondo a eu plusieurs vies. Elle fut administratrice du Théâtre National de Chaillot sous la direction de Jérôme Savary, secrétaire générale du Forum des Images sous la présidence de Pierre Tchernia, secrétaire générale de la Quinzaine des réalisateurs à Cannes, déléguée de la mission Cinéma à l'Hôtel de Ville de Paris, puis conseillère à la culture de Bertrand Delanoë. Elle fut aussi ambassadrice du cinéma français à l'étranger, en dirigeant Unifrance, présidente des correspondances de Manosque, ainsi que du conseil d'administration de l'École nationale supérieure de la photographie à Arles. Alors je ne sais pas combien de fois le mot directrice apparaît dans sa biographie, mais vous pouvez aussi l'associer aux affaires culturelles de la ville de Paris et à la création artistique au ministère de la Culture. En 2018, elle fut la directrice générale d'Arte et de nouveau présidente en 2020 au CNL. Au programme ce soir, cinéma, littérature, théâtre et psychanalyse. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Régine Atchondo.
Bonsoir Eva.
Quelle est la dernière chose qui vous a réjoui ?
Je ne sais pas si ça m'a réjoui, mais la dernière chose à laquelle j'ai pensé très fortement, c'est l'intelligence artificielle.
Ah bah oui, on est en plein dedans.
Exactement. Je me suis dit que l'intelligence artificielle est là, bien sûr il faut s'en saisir, on ne va pas vivre comme des dinosaures, hein. Mais en revanche je me suis dit que j'aurais bien aimé qu'on pense un jour le progrès, non pas uniquement comme technologique, mais aussi comme un progrès pour l'humanité, en tous les cas pour préserver l'humanité de l'homme.
Oui, parce que vous avez été sensible très très tôt aux effets de l'exposition aux écrans, notamment chez les jeunes.
Oui.
Et en fait, ça a été démontré depuis, vos inquiétudes ont été démontrées par des études.
Tout à fait. Toutes les études et surtout la parole des médecins, des pédopsychiatres, des pédiatres, celle des enseignants, à la fois de maternelle, d'école, collège, lycée, y compris des professeurs d'université. Je les ai tous réunis au Centre National du Livre, enfin tous, non, un collectif d'une vingtaine, l'autre jour justement pour essayer d'accorder nos actions, de notre parole aussi, pour qu'elle soit la plus claire et la plus limpide possible. Tous ceux qui sont en relation directe avec les enfants mesurent la difficulté que peut créer le mésusage des écrans et une forme d'addiction chez les adolescents. Chez les enfants, l'éloignement que cela peut créer de l'activité physique, du sport, bien sûr de la lecture. Donc ceux-là sont tout à fait convaincus, beaucoup de chercheurs aussi. Et quelques chercheurs épousent cette révolution technologique, dont Damasio dit qu'elle est anthropologique, en disant qu'au fond l'espèce humaine s'est toujours adaptée. Mais je suis pas sûre que l'espèce humaine ait été confrontée une fois dans sa vie au fait d'avoir une sorte de doudou greffé.
Ouais.
Au bout de son bras,
ouais.
Qui est la dernière fenêtre qu'il caresse avant de s'endormir.
Ça, c'est vrai.
Et qu'il caresse au réveil.
Ça, c'est vrai. Sachant qu'Alain Damasio vient de faire paraître au Seuil quand même un livre absolument terrifiant sur tout ce qui se passe au niveau technologique.
Tout à fait.
Et sur la Silicon Valley.
Oui.
Bon, écoutez, attendez, avant de tirer la sonnette d'alarme,
oui.
Parlons un peu de choses réjouissantes. Votre père était joueur international de rugby.
Oui.
Est-ce que vous avez suivi des matchs, vous, qui vous qualifiez de basque bondissante?
Ouais, je peux dire que j'étais basque bondissante. Alors, oui, j'ai suivi beaucoup, beaucoup de matchs, parce que après sa carrière internationale, que je n'ai pas connue car j'étais pas née.
C'est une très bonne excuse.
Voilà. Il a été président de club de rugby et puis pendant très longtemps entraîneur. Il a d'ailleurs connu Fabien Galthié, qui est à l'époque tout petit.
Il vous a appris à jouer ?
Alors, moi, j'ai joué une année. Et je dois avouer que ce n'est pas le sport que j'ai préféré. mais je pense aussi que c'était... j'avais 14-15 ans, on ne se sent pas forcément bien dans son corps.
Non.
Et donc, l'idée comme ça d'être pris dans des mêlées n'était pas quelque chose qui me convenait. Je préférais faire de la danse, même si ce n'était pas du tout de la danse classique.
Mais c'était quel type
c'était
de danse ?
De la danse jazz.
Ah.
Je dansais sur Cool and the Gang.
Ah bah, c'est chic.
Il y a pire.
Ah oui.
Et donc, j'ai vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs. J'ai été la mascotte du club de Cahors. Et je partageais aussi d'ailleurs avec mes parents certains dimanches, la troisième mi-temps. Et j'avais toujours peur, je me souviens qu'ils boivent trop et qu'ils dansent trop. Mais j'étais petite.
Et vous avez peur de le faire aussi ?
Pas du tout. J'adorerais avoir peur.
Vous dites à votre sujet que vous avez un caractère assez trempé qui peut en effrayer certains, mais que vous devenez plus calme avec le temps.
Oui, alors c'est toujours ce que je dis. C'est pas forcément quelque chose que mon entourage proche partage. Mais j'ai pourtant l'impression, oui, de m'être calmée, ou en tous les cas d'avoir calmé une part de ma colère.
Vous êtes en colère ?
Au fond, oui, je pense.
Contre quoi ?
Contre les injustices, contre la lâcheté, contre la veulerie.
Ah oui, vous devez être très en colère alors. On dit que vous vous tenez loin de tout conformisme ou langue de bois, et j'imagine que vous avez eu des rivalités comme tous les gens ayant occupé des postes de pouvoir. Comment faites-vous face à l'inimitié ?
Elle me blesse. Je pense qu'on a tous besoin d'être aimés, au fond. Donc elle me blesse, mais je préfère supporter cette blessure que me couler dans un moule.
Est-ce que le fait que votre mère ait été féministe vous a aidé à ne pas douter ?
Alors je pense que ça a contribué en tous les cas à me donner beaucoup de courage et un tempérament assez combatif.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Chaillot, c'est un endroit formidable. C'est un endroit qui a été merveilleusement dirigé par Vitesse.
Vous allez refaire la salle, hein ?
On va refaire la salle, oui, complètement. Oui. Pas complètement, mais on va rajouter 200 places et modifier l'angle de vision. Mmh. On vient de refaire, grâce à des sponsors, le foyer, qui est à l'identique comme en 1938, à la création de Chaillot, avec toutes les fresques qui ont été rénovées. C'est un espèce de palais. Ça s'appelle d'ailleurs le palais des Chaillots. Moi, je voudrais que ça devienne un palais des merveilles.
Jérôme Savary, vous n'avez pas l'impression que vous en faites un peu trop ?
Moi, j'en fais un peu trop. Je monte 5 ou 6 spectacles par an. J'adore ça. Pour moi, ce n'est pas du boulot, c'est du plaisir. J'ai l'impression d'être en perpétuelle vacances culturelles. Mais là, maintenant que je dirige Chaillot, je vais en faire un peu moins. Je vais me consacrer un peu plus au théâtre de Chaillot.
Regina Tchondo, vous avez été l'administratrice du Théâtre National de Chaillot sous la direction de Jérôme Savary, qu'on entend en 88 sur France Inter au micro de Denis Astagno. Comment eut lieu la rencontre et quels souvenirs gardez-vous de votre collaboration avec le metteur en scène ?
J'avais d'abord travaillé comme administratrice de production et j'avais noué avec Jérôme une relation de grande complicité. Et comme il était très, très gourmand, très truculent, très, très drôle, je pense que beaucoup ont dû penser d'ailleurs qu'il avait pu exister une histoire entre nous, ce qui n'a jamais été le cas. On a eu une relation professionnelle pendant 7 ans absolument merveilleuse. Je pense qu'il m'a beaucoup, beaucoup... je suis émue d'ailleurs de l'entendre là. Il m'a beaucoup marquée. En plus, j'étais jeune. Et vraiment, Jérôme, c'était un être... il dit « je vais me calmer », mais en fait, il ne s'est jamais calmé.
Comme vous, alors.
C'était un être boulimique, très gourmand de la vie. Des cigares, du très bon vin, de la viande plutôt bleue.
Ah oui.
Un peu comme un ogre de travail, un ogre de démesure. Ces spectacles, d'ailleurs, portaient cette marque-là. Et je crois qu'il a, au théâtre de Chaillot, souffert de ce qu'il a toujours vécu, c'est-à-dire un peu le mépris des intellos. Mais en même temps, il l'a vécu comme une grande reconnaissance de sa troupe du Magic Circus et Animaux Tristes. Et l'Animaux Tristes, c'est une petite poule, qui a été vraiment un mouvement d'avant-garde absolument incroyable en France. Je trouve qu'on a reconnu ce talent-là. Mais plus tard, j'allais dire un peu trop tard.
Ça arrive souvent, hélas.
Ouais.
Vous avez participé à la production du Lapin Chasseur de Jérôme Deschamps.
Oui. Alors ça, c'est un souvenir extraordinaire. Vous êtes trop jeune pour avoir connu le Lapin Chasseur.
Je suis née au siècle précédent, vous savez. Enfin non, même 2 siècles avant vous.
Le Lapin Chasseur, c'est un spectacle qui se déroulait en 2 parties. Le restaurant était divisé en 2 parties, donc le plateau était divisé en 2 parties. D'un côté, les coulisses et les cuisines, et de l'autre côté, le public et la salle de restaurant. Donc le public changeait à l'entracte. Il y avait du public devant les 2 parties du décor, et à l'entracte, on changeait. Donc il y avait une sorte Quand vous étiez du côté des cuisines, vous voyez les cuisines se faire avec la drôlerie de Jérôme Deschamps et Macha Makaïev, François Morel, Olivier Saladin, Lorella Cravotta, en fait toute cette troupe que vous avez certainement vue dans Les Deschiens.
Ah, bien sûr, et reçu aussi certains d'entre eux.
Voilà, j'imagine. Et vous entendiez les rires de ce qui se passait sur une partie du spectacle que vous ne voyez pas, et vous étiez aussi pris par le rire de ce que vous voyez. Donc il y avait une sorte comme ça de le rire circulait sans être vu. Du coup, il résonnait deux fois en nous, puisque quand on changeait, quand on faisait le tour du plateau à l'entracte, on découvrait ce pourquoi on avait entendu ce rire, et on était évidemment invité à d'autres rires. Alors toujours avec ce qui pouvait apparaître pour certains, parfois de la dureté sur les êtres, de la moquerie, mais que j'ai toujours vécu chez Jérôme et Macha, dont je suis restée proche, comme une grande poésie.
Avant d'être au théâtre, vous étiez fascinée par la mode, et vous avez d'ailleurs été recrutée, Regina Tchondo, par Christian Lacroix comme chargée de mission au sein de la maison Jean Patou. Mais il est parti juste après.
Vous êtes très très bien renseignée.
Ouais, j'ai une loupe toujours sur moi.
Vous avez des indices.
Oui.
Oui, alors ça reste une plaisanterie entre Christian Lacroix et moi-même d'ailleurs, mais qui a pris beaucoup de temps. Parce que je suis rentrée pour travailler dans le service de la haute couture. C'était en 87, et Christian Lacroix venait d'avoir le Dès d'or de la haute couture, ce qui est une reconnaissance extraordinaire dans le domaine de la haute couture. Et il a été appelé par le groupe qui appartenait à Bernard Arnault pour créer sa propre marque, ce qui est aujourd'hui LVMH. Et donc il est parti. Ça a jeté un froid glacial dans la maison Patou, parce que c'est une maison indépendante, familiale, et donc avoir réussi à obtenir le Dès d'or de la haute couture, c'était quelque chose pour eux de très important pour la reconnaissance de l'entreprise et le développement. Donc il y a eu comme ça une sorte de chape de plomb qui est tombée sur la maison. Je suis restée un peu, Christian Lacroix je ne l'ai jamais vu, mais je suis restée un peu pour m'occuper du lancement de Joy de Bain, qui était la ligne Joy que vous connaissiez, et au jasmin. On l'appelait le parfum le plus cher du monde, et on avait lancé la ligne de bain. Mais bon, j'étais pas vraiment folle des produits de beauté, j'étais folle de la mode, ce qui n'a rien à voir. Et donc je suis pas restée longtemps, mais des années plus tard, j'ai rencontré Christian Lacroix, qui est un remarquable costumier, oui, créateur de costumes, oui, pour du spectacle aussi, vivant, oui, bien sûr. Et je lui ai donc raconté cette anecdote. Et depuis, quand il nous arrive de nous croiser, il m'appelle Joy de Bain.
À 26 ans, vous étiez déjà abonné à la Cinémathèque française et au spectacle de danse du Théâtre de la Ville. Est-ce que vous vous souvenez de films qui vous ont marqué ?
Oh oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y avait souvent des rétrospectives. Je pourrais parler de La fièvre dans le sang, qui m'a énormément marquée. Je pense que c'est le film qui m'a le plus marquée dans cette période de l'âge de 18 ans. Natalie Wood et Warren Beatty, sublime. Histoire d'amour qui se finit mal, tragiquement. Pour mille et une raisons, les conventions sociales, le décalage de classe entre elle et lui. L'autorité d'un père qui, pour lui, le veut riche industriel, alors qu'il ne rêve que d'épouser Nathalie Wood. Il finira, lui, par épouser une femme dont je pense qu'il n'est pas très amoureux. Bref, j'ai pas raconté La fièvre dans le sang.
Il y a 15 ans.
Mais c'est, voilà, il y a 15 ans, sublime. Et puis j'ai vu tous les Truffaut, j'ai découvert Renoir. J'ai fait ma culture cinématographique pendant ces années-là, portée par une amie qui est beaucoup plus cinéphile que moi, aujourd'hui encore, et qui, et on y allait beaucoup toutes les deux.
Il y a un homme qui a eu beaucoup d'importance dans votre existence, c'est le producteur disparu en 2003, Daniel Toscan-Duplantier.
Énormément. Daniel Toscan-Duplantier, je l'ai rencontré plus tard. Je l'ai rencontré quand je suis rentrée au Forum des Images, car il était au conseil d'administration.
En 94.
Exactement. Et c'est un homme que j'ai adoré, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Il a laissé une empreinte et un souvenir très très fort dans le milieu du cinéma. Beaucoup le regrettent encore. Il était truculent, lui aussi. Très gourmand de vie. Un producteur brillantissime. Si j'ai le temps, je peux vous raconter une toute petite anecdote qui résume tout sur Daniel. Lorsque lui a été remise la Légion d'honneur par le président de la République à l'époque, François Mitterrand lui a dit « On s'éloigne de vous aujourd'hui pour le passif que vous avez laissé dans une maison qui se réjouira plus tard des actifs que ces passifs représentent.
Wow. »
Donc c'était sa relation à Gaumont, Il est toujours resté très très lié au patron de Gaumont à l'époque, qui était Nicolas Sédoux. Mais c'est vrai que, voilà, je pense que Daniel Toscan du Plantier a dû prendre des risques sur certains projets. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il représente finalement un pan important de notre patrimoine cinématographique, avec les Pialas, les opéras cinéma, qui étaient quand même sa marque de fabrique aussi, et tous les films qu'il a pu produire qui sont restés très, très vivaces aujourd'hui dans notre culture cinématographique.
Vous avez beaucoup travaillé pour le cinéma, comme secrétaire général de la quinzaine des réalisateurs à Cannes, à la mairie de Paris aussi, vous étiez déléguée de la mission cinéma, puis conseillère à la culture. Les correspondances de Manosque qui mêlent littérature, musique et scène, vous avez toujours aimé tous les arts ?
Oui, avec des préférences.
Lesquelles ?
Je dirais le cinéma et la littérature, peut-être. Je les mettrais en haut, même si... Si je ne vais pas au théâtre ou dans un musée pendant un mois, ça me manque. Donc j'ai quand même besoin de me nourrir de toute forme d'art. Au fond, je pense que j'aime tous les arts. Je suis peut-être un peu monomaniaque sur le genre. C'est-à-dire qu'au fond, je me rends compte que j'aime plus la mélancolie, la tristesse dans l'art. Alors que dans la vie, je ne suis pas, je crois, mélancolique.
Mais non. Vous aimez Barbara aussi, vous aimez les choses tristes
et
belles.
Oui, j'aime les choses tristes et belles. J'ai moins de plaisir dans la comédie. Et pourtant, j'admire beaucoup les très bonnes comédies, c'est pas la question. Mais si j'ai, compte tenu du fait que notre temps est toujours compté dans la vie, si je dois faire des choix, je vais plutôt m'orienter vers ce qui est plus sombre, qui met en évidence plutôt les fêlures, comme je disais tout à l'heure, la complexité de l'âme humaine.
Alors moi, j'ai des amis qui ne peuvent pas pleurer. Et quand ils sont tristes, ils regardent des films tristes, parce que c'est un support, justement, pour pouvoir exprimer leurs émotions. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça chez vous, Regina Tchondo, puisque vous, qui semblez être une force de la nature, pleine de pulsions de vie dans la vie quotidienne, eh bien, vous vous dirigez systématiquement vers des choses tristes. Peut-être que c'est parce qu'il y a une partie de vous que vous exprimez comme ça.
Je ne sais pas, je ne pense pas, parce que je peux tout à fait pleurer avec mes amis ou en famille, si j'ai de la tristesse. Avec mes amis beaucoup d'ailleurs, mes amis plutôt féminines.
Qu'est-ce qui vous plaît dans les fêlures ? Parce que je sais que vous étudiez aussi la psychanalyse avec une formation diplômante.
Oui, vous savez que la psychanalyse ne sera jamais reconnue par l'État, donc, mais c'est quand même diplômant. Ce qui me plaît, je pense que... D'abord, ce qui me plaît, c'est l'humain. Et au fond, je trouve que dans l'humain, ce qui est plus intéressant, c'est l'enfant qui continue de sangloter en nous.
Vous avez un enfant qui sanglote en vous ?
Oui, je pense, mais je pense qu'on l'a tous.
Oui. Après, moi, il y en a plusieurs. Ils sont six. Ça
fait après, la question, c'est quelle place on accorde à ces chagrins. Mais je trouve ça plus intéressant, d'une certaine manière, que de filmer la gaieté.
Oui. Bah oui, et en littérature aussi.
En littérature aussi.
Bien sûr.
Les livres qu'on aime sont rarement des livres joyeux.
C'est vrai.
Pas bien, oui. Pas bien du tout. Ouais, chut. C'est un arbre. C'est un arbre qui chante. C'est de l'allemand. Quoi, chut ? C'est en allemand. C'est de l'allemand en plus. Vous êtes taré. Oh, la galère. C'est-à-dire combien de temps ?
4 heures.
Oh putain.
Omar Sy qui expérimente l'opéra dans Intouchable d'Éric Toledano et Olivier Nakache. Regina Tchondo, vous avez dirigé Unifrance et c'est l'un des films que vous avez vendu à l'étranger. Mais alors expliquez aux auditeurs en quoi consiste votre mission quand on dirige Unifrance. Qu'est-ce qui se passe ? On va à l'étranger, on rencontre les cinéastes, on voit les films, on essaye de...
Alors, quand on dirige Unifrance, on vend pas les films.
On les a pas dans un imperméable qu'on écarte.
C'est les vendeurs qui vendent les films. En revanche, on doit créer le climat le plus favorable à la vente, à la promotion, en organisant des festivals, en étant présent sur les grands salons, Cannes, Berlin, Toronto, mettant en valeur les acteurs et les actrices des films pour les faire connaître le plus possible à l'international. Et donc, pendant 4 ans, c'est une vie où vous passez quand même 9 mois de votre temps à l'étranger, ce que j'ai adoré.
Quels étaient les voyages les plus marquants ?
J'ai adoré la Corée, j'ai adoré Tokyo, où on allait chaque année. New York, c'était un bonheur indicible. J'ai adoré aller en Israël, autour d'une rétrospective sur Isabelle Huppert. Tout était, c'est vraiment passionnant, et je trouve que c'est très passionnant de voyager en travaillant. C'est, je trouve presque plus intéressant que de voyager en faisant juste du tourisme, parce qu'on se rend beaucoup mieux compte du fonctionnement d'un pays. Donc, Intouchable, c'est Intouchable, je pense que c'est un des films qui s'est le plus vendu à l'international. Olivier Toledano et Eric Nakache sont d'excellents, ils accompagnent très très bien leurs films. Ils savent très bien faire la promotion, mais quand je dis ça, pas comme des vendeurs, vraiment avec beaucoup de finesse et beaucoup d'amour du public. Ils sont très généreux avec le public, très généreux avec la presse. Ils sont extrêmement professionnels. Donc on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de voyages avec eux, avec cette comédie. Moi qui disais que j'aimais pas trop les comédies, cette comédie est quand même absolument formidable.
Il paraît qu'à la mairie de Paris, votre bureau était décoré d'affiches de Jean-Pierre Léaud.
Oui.
C'est vrai, vous l'adorez. Alors quel film vous recommandez avec lui?
Mais d'ailleurs, je l'ai emmené, mon affiche Jean-Pierre Léaud. Elle est au CNL.
Ah, oui.
Elle est au CNL. Et en fait, c'est une affiche qui est une affiche de Jean-Pierre Léaud tout petit pour les 400 coups.
Ah, oui.
Et qui n'est pas celle qui a été utilisée à la sortie du film. Bien sûr, je recommanderai les 400 coups. Enfin, avec Jean-Pierre Léaud, je recommanderai aussi tous les fameux Antoine Donnel. C'est un acteur extraordinaire.
Est-ce qu'on a plus de pouvoir en politique, c'est-à-dire en mairie ou en ministère, ou à la tête d'une institution culturelle pour créer ou imaginer des événements et rendre la culture accessible ?
Alors, on a plus de pouvoir pour rendre la culture accessible quand on dirige un établissement ou quand on est à la mairie. Parce que le local s'est emparé beaucoup de la culture. Les collectivités territoriales financent 2/3 du budget de la culture, en tous les cas, de toute la partie spectacle vivant et art contemporain. Et donc, on a plus de pouvoir pour agir sur le public dans une ville comme Paris, a fortiori avec un maire comme Bertrand Delanoë, qui était très attaché à la politique culturelle de sa ville. Du côté de l'État, on est utile, très utile, sur l'aspect régulation, réglementation, répartition des subventions, mais on a moins de prise directe sur les actions que l'on mène.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Régina Tchondo, on revient un peu sur votre parcours. De 2018 à 2020, vous étiez directrice générale d'Arte. Et depuis 2020, vous êtes présidente du Centre National du Livre, qui défend ardemment la lecture. Quelles sont, en bref, les missions du CNL ?
Alors, le Centre National du Livre, vous avez bien raison de demander, parce qu'au fond, c'est pas très connu.
Ben non.
Le Centre National du Livre, c'est un établissement public qui dépend du ministère de la Culture, qui est financé par le ministère de la Culture, et qui soutient l'ensemble de la filière du livre, c'est-à-dire des bourses d'auteurs, bourses de traducteurs, de l'aide à la publication pour les éditeurs, en particulier sur tout ce qui relève de la prise de risque, les librairies indépendantes et toute la vie littéraire. Ça, je dirais que c'est vraiment l'émission traditionnelle du Centre National du Livre. En 2022, quand le président de la République a décidé que la lecture allait être une grande cause nationale, on s'est emparé du sujet de la lecture, qui existait déjà, mais on lui a donné beaucoup d'ampleur, à travers beaucoup d'actions.
Et par exemple, il y a la Nuit de la Lecture dans toute la France, où il y a des événements merveilleux absolument partout et gratuits. Et bientôt, le 11 mars, le CNL invitera à la 4e édition du Quart d'heure de lecture nationale, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et plusieurs partenaires. En quoi ça va consister, ce quart d'heure de lecture ?
Le quart d'heure de lecture, c'est vraiment avec l'Éducation nationale qui l'a inventé pour
en
ses
2019.
Propres, voilà, pour ses collèges et ses classes. Et on s'est dit, pourquoi pas faire en sorte qu'il y ait une journée où on propose à tous les Français d'éteindre leur portable un quart d'heure et de lire.
Parce qu'ils ont montré que ça avait des effets sur les élèves.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils étaient plus calmes après.
Tout à fait. Beaucoup plus apaisés. Beaucoup plus concentré. Et puis, si on apprécie un livre, et on fonctionne comme ça nous-mêmes, c'est le désir d'un autre livre, le désir d'une autre découverte. Le fait de consommer, c'est pas très joli pour la culture, mais néanmoins, donne envie de toujours continuer. Donc, les enseignants qui le pratiquent sont très heureux, et on a demandé à l'Éducation nationale s'ils étaient d'accord pour qu'on en fasse un événement national. On aimerait que ça devienne la journée contre le tabac, le dry January, les 5 fruits et légumes,
l'année
d'une certaine
de la lecture.
Manière.
Oui, le siècle de la lecture.
Oui, mais qu'avec une journée de la lecture, on fasse prendre conscience à tous les citoyens français du plaisir à côté duquel ils passent lorsqu'ils ne prennent pas le temps de lire.
Et parce que pour vous, Régina Tchondeau, la lecture crée des liens et ouvre des espaces de réflexion nécessaires à notre société. Et tout à l'heure, on parlait du fait que vous avez été sensible très tôt au danger de la surexposition aux écrans chez les jeunes, fait aujourd'hui avéré. Vous ne rejetez pas le numérique pour autant, évidemment. Il sera là à vie plutôt que de pleurer, autant s'en emparer. Là, je vous cite, qui est très sage. Et en fait, la jeunesse, puisqu'il paraît que c'est dans la grande adolescence qu'on décroche de la lecture. Et la jeunesse, ça a toujours été un de vos combats. En arrivant à Unifrance, vous avez inventé le tout premier festival en ligne de cinéma français. La santé mentale, censée être la grande cause nationale de 2025, ça vous tient à cœur aussi, puisque vous pensez que c'est un moyen de prendre soin de sa santé mentale, la lecture. Et vous aimez l'idée de ce temps calme, qui ressemble presque à une méditation, finalement.
Oui, oui, je suis bien d'accord. En tous les cas, un retour sur soi, avec en même temps une fenêtre ouverte sur les autres. C'est ça qui est merveilleux dans la lecture. J'ai toujours été obsédée par le public et par la jeunesse, et ça je le dois beaucoup à Jérôme Savary, qui supportait pas quand il y avait un fauteuil de vide dans la salle de 2400 places du théâtre de Chaillot. Donc on était vraiment au cordeau en permanence, et ça je dois dire que je le lui dois et je l'en remercie, parce que ça, j'ai été poursuivie par cette idée que la culture n'a de sens que si elle est transmise au public et en particulier à la jeunesse. Donc j'avais créé des spectacles pour enfants au théâtre de Chaillot, 1 000 francs de récompense magnifique de Benoît Besson, sublime. J'avais créé les après-midi des enfants le mercredi au Forum des Images, les ciné-babies pour les couches culottes avec les crèches, sur des petits courts-métrages de 40 minutes avec beaucoup de marionnettes et des musiques très douces qui fonctionnaient très bien. On a créé mon premier festival à la ville de Paris qui existe toujours, donc il va avoir 15 ou 16 ans je pense. Et je pense que la transmission, la question de la découverte très jeune de ce qui peut nous donner du plaisir et nous ouvrir, nous construire, nous donner des forces, nous consoler aussi de nos chagrins, est essentielle. Et c'est aussi pour ça que pour la lecture, en ce qui concerne la lecture et le Centre National, comme vous disiez, les Nuits de la Lecture, avec 8500 événements, vous n'aimez pas les chiffres, mais c'est énorme.
Pourquoi vous dites que je n'aime pas les
parce
chiffres?
Parce que vous m'avez dit que vous n'aimiez pas les chiffres.
Non, je vous ai dit ça hors antenne, parce que je vous ai dit qu'on allait plutôt parler de vous, oui, que je préfère faire le portrait de quelqu'un plutôt que de donner des chiffres du
bien
CNL
sûr.
Qu'on peut entendre partout. Mais j'adore les chiffres.
D'accord.
Et les chiffres m'adorent.
D'accord.
Sauf le 8.
Très bien.
Qui n'aime pas trop.
D'accord.
Donnez-moi des chiffres. On
a Partir en Livre, où on a 300 000 adolescents qui repartent avec une expérience de livre juste avant les grandes vacances. Ce temps libre où ils peuvent lire, on leur distribue des chèques lire, on leur offre des livres. C'est vraiment extrêmement important, très tôt, de sensibiliser à ce plaisir. Et bien sûr, sur les écrans, comme je le dis, on va pas tourner le dos aux écrans. Je pense, en revanche, qu'on coupe nos enfants. Certains pédiatres disent on les tue, on les assassine. Mais j'irai pas jusque-là. Mais je pense qu'on les coupe de quelque chose d'absolument essentiel, qui participe aussi au fait d'être mieux dans sa peau, mieux dans sa tête, et d'être, j'allais dire aussi, meilleur élève. Je suis pas là dans la course des bonnes notes, c'est
pas
la question.
Pour la concentration.
Mais pour soi, c'est mieux.
Par exemple, vous avez lancé aussi, je le dis parce que j'ai trouvé ça très amusant et ludique, le Livrodrome, qui est un parc d'attractions littéraires.
Oui.
Ça pour les 11-18 ans.
Oui, tout à fait.
Et alors, on dit, et là je suis obligée de vous le demander évidemment, que la pratique de la lecture décroît. Alors, est-ce que c'est vrai ?
Oui, elle décroît.
Oh, non.
Elle décroît puisqu'on suit, nous, une étude qui a lieu tous les 2 ans.
Donnez-nous des chiffres. Allez-y.
Un enfant, un ado sur 3, entre 16 et 19 ans, dit ne pas lire. Ni pour le plaisir, ni pour l'école.
Oh, non.
48% des jeunes interrogés disent qu'ils font autre chose en lisant. Ce qui peut expliquer le fait qu'ils s'ennuient en lisant. Parce que c'est sûr que si on entrecoupe sa lecture...
Avec des Babybel.
Avec TikTok, on répond aux...
J'étais un peu optimiste.
Babybel, ce serait très bien. Non, c'est TikTok, c'est les réseaux sociaux, c'est les vidéos sur YouTube. C'est vraiment là encore l'emprise de l'écran sur sur la concentration d'un livre. Beaucoup s'endorment avec leur écran.
Mais on peut dire aussi que ça nous touche, nous, adultes. C'est-à-dire qu'on a une capacité de concentration amoindrie depuis que les téléphones portables sont la dernière chose qu'on caresse avant de se coucher, comme vous l'avez si justement dit.
Tout à fait, je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'à partir du moment où on n'est pas né avec, on a quand même une grande chance d'être au moins conscient de la nécessité de réguler.
Big enough.
Choix musical, Regina Tchondo, ce sublime morceau de Man I Love par Billie Holiday.
Je suis folle de Billie Holiday. Je suis folle de sa voix cassée, de fumeuse qui en plus buvait beaucoup et puis sous l'emprise d'hommes a fini totalement droguée par la cocaïne au début, puis ensuite par l'héroïne, qui a été très abusée dès son enfance. Baladée de foyer en foyer, de tante en oncle, abusée sexuellement. Et je trouve que toute cette vie, où en même temps elle a été repérée, grande chance, donc on peut avoir ses chansons, on sent en elle tout ce dont je vous parle depuis le début. Et cette vie-là, cette voix-là, ces chansons absolument magnifiques, avec les plus grands jazzman de l'époque. C'est Billie Holiday, je l'écoute en boucle.
Alors, en parlant de noirceur, mais c'est en même temps de la beauté, de la grâce absolue, vous avez choisi un livre bouleversant pour les auditeurs, Regina Tchondo, c'est Lettre à D de André Gorz, et je vous laisse raconter l'histoire parce que c'est magnifique et tragique.
C'est Lettre à Dorine, qu'André Gorz écrit après 58 ans de mariage, alors que sa femme est atteinte d'une maladie incurable, et il lui fait une déclaration d'amour, et il lui dit à quel point il est le seul, le fait d'être près de son corps, il est le seul endroit un peu de chaleur qui existe encore dans sa vie, depuis qu'il sait qu'il va la perdre, et d'ailleurs ils se suicideront ensemble. Donc il voulait pas lui survivre, et d'ailleurs il le dit dans le livre, il y a un très très beau passage, sur le fait qu'il ne veut pas survivre à Dorine.
Bon alors là, c'est un peu plus rigolo. Ce sont les livres de Grégoire Bouillet que vous avez choisis. Là, c'est vrai que bon, on est plus dans la tragédie.
Oui, je suis d'accord.
On est dans l'autodérision.
Voilà, vous voyez, une forme de
la
tragédie.
Distance.
Une forme de tragédie, mais drôle.
Oui, inversée finalement.
Voilà, inversée. Oui, Grégoire Bouillet, moi, ça a été ma découverte en arrivant au Centre National du Livre, j'avoue.
On l'a reçu, il est formidable.
Et je trouve que c'est vraiment un auteur dans le paysage littéraire français aujourd'hui extrêmement...
Singulier,
très particulier. Il part parfois de tout petits détails, soit de choses qu'il a ressenties, il est très à l'écoute aussi de ce qu'il ressent, soit de petits détails qu'il a observés, et il va tellement, tellement loin, de manière même, on peut dire, obsessionnelle, fouiller cette sensation, cet émoi ou ce détail, qu'il va finir par en tirer une sorte de propos totalement universel sur ce qu'est l'homme. Et je trouve que vraiment, on, tous ces livres, qu'ils soient petits, comme Rapport sur moi, ou le dernier sur Monet, ou Le cœur ne cède pas sur cette femme ex-mannequin qui s'est laissée mourir en 85 toute seule dans son appartement, et Dossier M, on retrouve cette patte brouillée. Mmh. Je trouve qu'il y a une patte brouillée.
J'ajouterai l'invité mystère en recommandation.
Et l'invité mystère que j'oubliais.
Ouais, c'est très, très drôle. Raison. Non, mais c'était pas un oubli, je l'ajoute.
خب الانم که قاضی تحقیقات شده این خطرها هست دیگه
آفرین بابا جون بدشانسی این شلوغی ها همزمان شده با شروع کار من تو میشه
تو هم شعار دادی؟
شعار دادم سریعا در
آوردم
On entend Les graines du figuier sauvage de Mohamed Rassoulof, film magnifique sorti l'année dernière et l'une de vos recommandations aussi, Regina Tchondo.
Oui, vraiment. Pour moi, c'était le plus beau film de la sélection du Festival de Cannes cette année-là. Tout est dans ce film. Le soupçon, la dictature, la liberté qu'on retire aux femmes. Elles sont en pleine manifestation et une jeune fille se fait... En pleine manifestation, femme, vie, liberté, une jeune femme se fait blessée. Elle doit être cachée dans une famille où on sent que la tension monte, la mère qui protège son mari mais qui en même temps veut aussi ne pas accepter la proposition de leur fille de sauver cette jeune femme, l'interdiction qu'ils ont de le faire, le soupçon, la suspicion qui se glisse dans l'esprit dans la tête du mari. Et donc on habite au fond, c'est un film sur la folie. Ce que crée un régime dans une famille pourtant aimante et qui finit par un drame.
Vous avez choisi aussi de la danse, une découverte culturelle de ces dernières années, Ofech Schächter.
Ah oui, Ofech Schächter, c'est vraiment... ça fait longtemps hein, qu'il... mais moi je l'ai découvert il y a 10 ans, je pense que ça faisait déjà plusieurs années qu'il avait été invité en France, peut-être dans des moins grandes salles, et j'ai peut-être pas fait preuve d'assez de curiosité. Maintenant je ne rate plus un seul spectacle de Ofech Schächter, dont je trouve que les chorégraphies et les danseurs sont extraordinaires, à la fois lorsqu'il parle du désir, lorsqu'il parle de la guerre, du combat, lorsqu'il parle là aussi parfois de la folie que peut créer la guerre. Il est d'origine, il est israélien, même s'il vit en Europe. Sa compagnie lui est fidèle, en tous les cas on reconnaît les danseurs, j'adore aussi quand on reconnaît les danseurs. Il est extrêmement doué, et je crois d'ailleurs qu'un de ses derniers spectacles est rentré au répertoire de l'Opéra de Paris.
J'ai une écriture catastrophique, je n'arriverai jamais à relire tout ça. Le début est sans grand intérêt. Ah, voilà. Je me suis retournée, Dieu sait pourquoi, et je regardais une photo sur mon bureau où j'étais avec mes camarades de classe. J'ai eu tout à coup la révélation de quelque chose qui se préparait depuis longtemps et qui toutefois était encore insaisissable. À ma grande surprise, j'ai découvert que je ne savais pas qui j'étais. Absolument pas. Toute mon éducation et celle de mes sœurs a eu pour unique but de faire de nous des jeunes filles et plus tard des épouses agréables. J'ai commencé le grand jeu de la tricherie à l'époque de la puberté et de mes premiers émois.
Oh, alors c'est inouï, je me suis endormie. Pourtant tout ce que tu m'as lu m'apparaît très intéressant.
L'homme qui s'endort pendant que la femme lui raconte des choses profondes sur son être, c'est l'une des scènes cruelles et sublimement écrites de Scènes de la vie conjugale d'Ingmar Bergman, sorti en 73. Et c'est l'un de vos films favoris, Regina Tchondo.
Oui, tout Bergman d'ailleurs.
Ah bah oui, c'est un génie, le terme n'est pas galvaudé.
C'est un génie, sa biographie est aussi tout à fait...
Très drôle et méchante.
Ouais. Extrêmement intéressante, et je pense qu'il a capté, comme beaucoup d'autres cinéastes aussi, mais avec sa singularité, c'est toujours pareil, ils ont chacun leur... il a vraiment capté les relations hommes-femmes, les non-dits familiaux, les relations mère-fille, les relations sororales, les fratries malades. Enfin, je crois vraiment que Bergman, c'est... d'ailleurs, ça serait un objet... d'ailleurs, il y a des livres sur la psychanalyse et Bergman, évidemment. Ou alors, il est souvent cité dans les livres de sur la psychanalyse et le cinéma, parce qu'il est par essence le cinéaste de la psychanalyse.
Et justement, vous qui étudiez la psychanalyse, êtes-vous en bon terme avec vous-même ?
Quand je disais qu'une partie de la colère a disparu, même si elle peut revenir malheureusement au galop, oui, je pense. Mais c'est tout un travail, ça va plus vite chez certains.
Est-ce que vous pensez que tout le monde est un peu fou ? Je ne parle pas de troubles psychiatriques, je parle en général. Tout le monde est un peu fou, non ?
Oui, mais enfin, il ne faut pas galvauder non plus. Le fait que...
Moi, je vous le dis avec tendresse, c'est presque le petit point de démence de Deleuze.
Oui, on a tous un petit... De toute façon, on a tous un petit déséquilibre. D'ailleurs, on a un petit déséquilibre physiquement. Tout n'est pas pareil. On n'est pas symétrique du visage. On a toujours quelques millimètres de différence entre un côté et l'autre. Et je crois que c'est pareil pour notre âme, pour notre cerveau, notre pauvre cerveau. Mais peut-être que ça confine... Je pense pas que ça confine toujours à la folie. Enfin, folie douce, oui.
Mais c'est un compliment dans ma bouche.
Ouais. Tant mieux.
Je fais la peinture ce qu'on appelle réaliste, parce que l'abstrait ne m'intéresse pas, parce que pour moi c'est toujours, ça ne peut pas que aboutir dans la décoration.
Dans cette étude que vous faites de la réalité, il y a aussi une part d'imagination.
Mais bien sûr, il y a toujours été, parce que là, c'est ce qu'on appelle figuratif, a toujours un grand côté abstrait. Parce que tout là a un grand parti. Parce qu'il ne faut pas oublier que là est l'artifice.
Francis Bacon au micro de Michel Couturier en 1975 sur France Culture. En théâtre, Regina Tchondo, vous adorez Ibsen. En peinture, c'est Francis Bacon.
Oui. Tout à fait. J'en aime beaucoup d'autres, hein, mais j'aime beaucoup. En ce moment, je suis en train de relire Brecht et je me rends compte à quel point Brecht était visionnaire. Donc, le ventre immonde de la bête féconde, je pense que c'est quand même quelque chose qui vieillira jamais. Malheureusement, ça prendra pas une ride. Alors, Bacon, oui, je pense que je suis pas la seule. Heureusement qu'il a d'ailleurs le succès qu'il a. C'était incroyable lors de la dernière rétrospective qu'il a été rendu de voir tout ce public. Je trouve en plus un public vraiment aussi très jeune. Et je pense, voilà, il parle de la cruauté, de la violence, du monde. Il me semble qu'au fond, c'est peut-être aussi parce que l'histoire qui précède ces tableaux m'a bouleversée, comme beaucoup d'entre nous. Je crois que j'adore les tableaux, le triptyque autour de George, d'ailleurs, qui était l'homme avec qui il partageait sa vie.
Oui, et qui a fini tragiquement.
Oui.
En se suicidant.
Qui s'est suicidé, oui. Ouais. Dans la chambre d'hôtel qu'il partageait avec le peintre.
Et dans une mise en scène quasi similaire à l'un de ses tableaux.
Tout à fait.
On arrive presque au terme de cette émission. Chaque année, le CNL soutient aussi des primo-romanciers. Est-ce que vous auriez un ou deux livres que vous aimeriez citer, à mettre en valeur ?
Oui, oh oui. Dans les primo-romanciers, il y a un livre qui m'avait beaucoup plu, de Julie Héraclès, qui a été assez critiqué par les historiens, mais j'ai pas le regard d'un historien, donc moi je l'ai aimé, c'est sur une femme qui a été tondue.
Pour collaboration ?
À la fin de la guerre, parce qu'elle était tombée amoureuse d'un officier allemand, dont elle a d'ailleurs eu un enfant, et c'est une fiction autour de cette femme, qui par ailleurs est en photo dans une photo de Capa. Et moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le fait que pendant qu'il la tonde, avec toute la haine qui se manifeste autour d'elle, intérieurement, elle se dit « Je l'ai aimé, il m'a aimé, ils ne me voleront pas ce trésor. » Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez magnifique dans cette attitude. Mais je sais que ça n'a pas plu aux historiens, probablement, d'héroïser une traître.
Comment s'appelle le livre ?
Vous ne connaissez rien de moi, de Julie Héraclès.
Regina Tchondo, on n'a hélas plus le temps pour d'autres recommandations, mais est-ce que vous pouvez répondre par oui ou par non ? Est-il vrai que Le bonheur parfait du romancier américain James Salter fait partie de vos livres préférés ?
Oui.
Ah, formidable, une autre recommandation. Merci beaucoup Regina Tchondo.
Merci.
Et je rappelle que le CNL invite à un quart d'heure de lecture nationale le 11 mars prochain, et vous pouvez déjà prendre de l'avance en lisant même 10 minutes dans le métro. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Joseph Ascal et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Adèle Caglard. Thank you. Il sera d'ailleurs à l'opéra avec sa troupe du 10 juin au 14 juillet prochain.